Moi, je vois des compagnies qui ferment à chaque année, puis qui font attention à leurs dépenses, puis qui achètent des avions vraiment vieux, puis qui coûtent pas cher. Et vous autres, les deux malades, vous débarquez dans mon bureau, puis là, vous me dites, non, non, vous autres, vous allez mettre 4 millions, vous allez payer, puis vous allez vendre à peu près le même prix que les autres. Wow! Ça marche pas. Alors, la vérité, c'est que l'idée avait beau être bonne dans nos têtes, dans la façon qu'on allait conquérir le marché, l'idée sur papier pour les banques, c'était une idée folle.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 122e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. Gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réels qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. L'intégration verticale est une des techniques que j'affectionne le plus quand vient le temps de penser à la croissance de son entreprise. Contrôler toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement peut générer des économies d'échelle pour une organisation et aide à pouvoir mieux contrôler les étapes du parcours client. Notre invité du jour est un fan également de cette approche et s'est assuré de maîtriser cet aspect plus que quiconque que j'ai rencontré. Danny Gagnon, cofondateur de l'entreprise Chrono Aviation, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la croissance que son entreprise a générée depuis 2012. Son entité, qui se situe dans une catégorie où les barrières à l'entrée sont excessivement grandes, a grandi continuellement dans les 10 dernières années et s'approche rapidement du 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Dans l'entretien de près d'une heure, on parle de financement, intégration verticale et bien entendu de croissance. Sans plus attendre, ma discussion avec Danny Gagnon. Danny Gagnon, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Chrono Aviation, un leader dans le domaine de l'aviation privée au Québec. Fondée en 2012, l'entreprise compte maintenant plus d'une centaine d'employés à son actif, des dizaines d'avions d'opération ainsi qu'un chiffre d'affaires ayant franchi la barre symbolique des 50 millions annuellement. Danny Gagnon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
Et Danny, avant de parler davantage affaires et croissance, pourrais-tu expliquer à notre audience aujourd'hui qu'est-ce que Chrono Aviation et également qu'est-ce qui vous distingue des autres entreprises aériennes de ce monde?
Chrono Aviation, c'est une entreprise de nolisé, c'est-à-dire, on dit en anglais, c'est une charter company. Donc, on fait des vols point A, point B dans le domaine de l'aviation privée. On vend pas de billets d'avion à la carte, exemple, comme les Air Canada de ce monde ou les compagnies à horaires réguliers. On est vraiment destiné à une clientèle qui décide de louer un avion pour faire point A, point B, pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est de l'efficacité. Des fois, c'est juste du luxe. Des fois, c'est parce que on va couvrir des régions ou des emplacements que personne d'autre va couvrir. Donc, on est vraiment spécialisé dans les vols nolisés, dans des appareils qui varient de 9 passagers jusqu'à 120 passagers avec nos Boeing 737. Donc, c'est 100% de l'aviation privée, ce qu'on fait.
Ça ressemble à quoi un peu vos clients pour être capable de bien situer les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui?
C'est très large. La clientèle va de l'industriel, donc des compagnies minières, des compagnies de construction, des fédérations, l'association de la construction, des infirmières, le gouvernement. Des fois, on va être en support à l'armée canadienne, entre autres, pour des transports de troupes qui ont des entraînements. On a fait souvent les premiers ministres québécois. On fait beaucoup de compagnies, donc du corporatif, des compagnies qui, pour des raisons d'efficacité, comme je disais tantôt, si un meeting d'affaires à Sept-Îles puis on part de Montréal, ben à un certain nombre pour une personne, c'est sûr qu'on battra jamais le niveau rapport de prix versus siège là. Mais quand vous êtes 4-5 personnes à se diriger vers un meeting et que vous prenez en compte les coûts des billets d'avion, le fait que vous serez pas capable de faire l'aller-retour dans une seule journée, ben c'est souvent plus rentable de noliser un avion puis d'aller faire le meeting puis de revenir puis d'être à la maison le soir avec les enfants puis d'éviter les frais puis la perte de temps beaucoup. Donc beaucoup de corporatifs qui font ces choix-là pour des raisons évidentes de performance. Puis évidemment, il y a du grand luxe. Alors, on a la chance de fréquenter une clientèle assez aisée pour s'offrir le luxe de simplement voyager en avion privé au lieu de se retrouver dans un vol commercial entouré de gens qu'on connaît pas. Et il y a de plus en plus de gens qui font ce choix-là, surtout avec la crise qu'on vient de traverser. On dirait que ça a sonné un genre de déclic pour bien des gens qui avaient les moyens de le faire, mais qui osaient pas le faire parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Quand tu dis que tu le fais juste pour le plaisir ou pour avoir un certain luxe, il y a donc beaucoup de gens qui avaient les moyens de le faire, mais qui disaient « Ah, ça n'a pas de bon sens, c'est une dépense folle, on fera pas ça. » Et qui aujourd'hui, face aux contraintes des vols commerciaux réguliers, le port du masque à l'aéroport, les mesures extrêmes, si on veut, qu'on réussit à éviter si vous êtes dans votre propre avion que vous avez loué. On comprend que si vous êtes en famille dans un jet privé vers la Floride, vous n'avez pas besoin d'avoir un masque pendant le vol. Personne ne va vous écœurer. Alors là, il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, ben regarde, c'est du quoi, on est capable, on va le faire. » Alors, le volet aviation de luxe pour des gens aisés est en augmentation fulgurante depuis le début de la crise.
C'est intéressant ce que tu dis. Puis, Danny, j'aimerais revenir au moment de votre fondation. Donc, on en parlait dans les entretiens préalables à l'enregistrement. La barrière à l'entrée en aviation est très élevée comparativement à des entreprises, disons, en prestations de services ou en technologie. Vous avez besoin d'énormément de capital dès le départ afin de seulement lancer l'entreprise. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette catégorie en 2012 et également comment tout ça s'est déroulé parce que ça a dû être toute qu'une aventure, là?
Ben, Vincent, mon associé et moi, on était déjà dans l'aviation. Alors, Vincent est un ex-pilote d'Air Canada. Il était encore chez Air Canada au moment de la fondation de la compagnie en 2012. Vincent a une carrière de 23 ans, donc connaissait l'aviation, était propriétaire d'une compagnie qui achetait et vendait des avions, donc avait une grande connaissance du marché d'acquisition et de vente d'avions. Et moi, ben, j'avais fait mes classes aussi comme pilote de ligne, mais aussi comme propriétaire d'une petite compagnie aérienne à Québec qui s'appelait Aviation Roger Ford, une compagnie d'hydravions. Donc, les deux, on avait des bonnes bases en aviation. Et quand on a décidé de se lancer, c'est d'abord parce que les opportunités se présentaient. On savait que le marché de l'aviation privée au Québec batailler entre plusieurs compagnies qui avaient pas mal toutes la même recette, c'est-à-dire les mêmes appareils, les mêmes philosophies, la même façon d'opérer. Et en 2012, on s'est dit, il y avait eu une couple d'incidents, pour être bien honnête, Antoine, il y avait eu des crashs mortels dans les années précédentes et les gens avaient de plus en plus peur et de moins en moins confiance aux petites compagnies d'aviation privée. Et Vincent, à moi, on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de faire justement un mini Air Canada au niveau de la sécurité, de la rigueur, de la qualité des avions, de l'investissement plus important qu'on ferait en achetant des avions récents. Alors, on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de faire un mini Air Canada et d'essayer de voir si la clientèle actuelle ne serait pas prête à payer un peu plus cher de l'heure pour voler dans des avions plus récents avec des pilotes mieux entraînés et une compagnie qui va injecter plus de fonds dans la sécurité puis dans l'entraînement. Et ce pari-là s'est avéré très profitable parce qu'effectivement, dès le début de chrono, évidemment, tu te parlais de barrière à l'entrée, ça n'a pas été facile parce que l'idée a beau être là, il fallait trouver un avion puis surtout trouver le financement pour acheter l'avion. L'aviation est malheureusement un domaine qui fait peur, puis je le comprends parce que il y a un adage dans l'aviation qui existe depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je devrais dire, qui dit que pour être millionnaire en aviation, faut partir milliardaire. Alors, tout le monde l'a déjà entendu. Et si deux jeunes coqs se présentent dans le bureau d'un banquier pour dire « Hey, on a une idée, nous autres, on va faire ce que personne n'a fait à date. Au lieu d'acheter un avion à 500 000 $, on va en acheter un à 4 millions. Puis, on va essayer de se battre contre ceux qui achètent des avions à 500 000, mais nous autres, on va payer de l'entraînement à 30 000 par année par gars au lieu de pas en payer. » Là, le banquier fait comme ça, attends un peu, là. Vous autres, moi, je vois des compagnies qui ferment à chaque année, qui font attention à leurs dépenses, qui achètent des avions vraiment vieux puis qui coûtent pas cher. Vous autres, les deux malades, vous débarquez dans mon bureau, puis là, vous me dites, non, vous autres, vous allez mettre 4 millions, vous allez payer, puis vous allez vendre à peu près le même prix que les autres. Wow! Ça marche pas. Alors, la vérité, c'est que l'idée avait beau être bonne dans nos têtes, dans la façon qu'on allait conquérir le marché, l'idée sur papier pour les banques, c'était une idée folle. Alors, on n'a jamais réussi à trouver du financement auprès des banques au moment du lancement de l'entreprise. Et ça a dû se faire avec ce qu'on appelle du love money. Là, on a fait le tour de tout le monde qu'on connaît. Puis, une chance, on avait la chance, Vincent et moi, d'être entourés de gens d'affaires qui avaient bien réussi, donc qui avaient les moyens de nous aider, de nous prêter de l'argent. Et on a acheté le premier avion. Puis, quand tu parles de barrière à l'entrée, Antoine, oui, évidemment, le financement, c'est une première barrière à l'entrée, mais la vraie barrière à l'entrée dans le domaine de l'aviation, c'est même pas ça, parce que disons que demain matin, quelqu'un gagne à la loto 30 millions puis décide de venir partir une compagnie. Les vraies barrières à l'entrée dans ce domaine-là, c'est surtout les compétences nécessaires et les titres qui exigent des licences de Transport Canada pour être capable d'opérer une compagnie. Là, je vais essayer d'expliquer ça simplement sans vous donner un cours d'aviation, mais Pierre Jean-Jacques peut pas aller à Transport Canada et dire « Salut, je veux une licence de compagnie aérienne ». Ça marche pas. Pour avoir une licence de compagnie aérienne, Transport Canada va dire « Ok, parfait, qui est votre chef pilote ?»« Oh, ça prend un chef pilote. »« Ah, oh, ben ça doit se trouver un chef pilote. »« Ah, oh, ça dépend. » Un chef pilote pour un type d'avion n'est pas les mêmes exigences de compétences qu'un chef pilote pour un autre type d'avion. Alors, quand je parle de barrière à l'entrée, Vincent avait 23 ans d'expérience comme pilote sur un gros porteur d'Air Canada. Quand il s'est pointé à Transport Canada pour avoir une licence de chef pilote sur un plus petit avion, ça, c'était possible. Moi, j'avais déjà 7 ans d'expérience comme dirigeant d'une compagnie aérienne plus petite, mais j'avais fait mes preuves auprès de Transport Canada et j'avais le titre de directeur des opérations aériennes. Alors, ces titres-là, c'est des titres qui sont sous licence. Il faut passer des entrevues, des examens à Transport Canada. Et il y a très peu de gens, même si on parle au meilleur gars d'affaires de la ville avec un bac en admin, puis name it, là, un génie des finances qui dit « je me pars en aviation », ça fera pas nécessairement de toi une personne capable d'obtenir les licences nécessaires pour l'exploitation des avions. Et plus tu grossis les avions, plus les exigences sont grandes auprès de Transport Canada pour démontrer que tu as les compétences réelles pour opérer une compagnie aérienne. Et là, si tu me disais « ben ok, mais j'ai de l'argent, je vais mettre une annonce, puis je vais payer, je vais offrir des gros salaires, je vais aller recruter des talents pour faire cette job-là », ben oui, c'est sûrement possible. Le gros problème, puis l'enjeu actuel, c'est que les compagnies aériennes qui dépendent d'employés qui possèdent ces licences-là, c'est qu'à partir du moment où l'employé quitte la compagnie pour une meilleure offre, ce qui arrive, on va se le dire assez souvent ces temps-ci, dans la vie, dans les affaires, ben, si un employé qui possède un titre, et je vais en nommer un autre, la personne responsable de la maintenance, on appelle ça un PRM, ben cette personne-là doit avoir une entrevue puis une licence de Transport Canada. Si c'est un employé qui exerce ça et que l'employé s'en va, tu reçois une lettre de transport qui te dit que tu as 30 jours pour le remplacer, sinon on suspend tes licences.
Oh my God.
Ouais. Alors, l'avantage que Vincent et moi, on avait, c'était réellement que on avait tous ces titres-là nous-mêmes. Les propriétaires de la compagnie avaient l'expertise pour aller chercher les titres nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Et ça fait qu'on n'a jamais été dépendant d'employés sur qui la compagnie aurait reposé carrément. Parce que ce que je viens de dire, tu sais, si tu as un employé, puis il a bien beau être fin, puis bon, puis intelligent, t'es pas à l'abri que l'employé quitte ou soit malade. Et si ça arrivait demain matin, ben là, ta licence est suspendue. Si tu remplaces pas dans 30 jours, c'est une catastrophe. Le fait que Vincent et moi, on était en mesure de combler ces postes-là réellement, ça faisait en sorte qu'il y avait une grande barrière à l'entrée d'éliminer en ayant la certitude que ni moi ni Vincent allons quitter notre propre compagnie et que notre opération sera jamais mise en péril par le manque de personnel avec les titres légaux nécessaires. Alors, écoute, c'est une longue explication, mais ça fait quand même partie de la barrière à l'entrée, puis c'est pratiquement une barrière plus difficile à franchir que celle du financement. Quoique, j'enlève rien au financement, parce que le financement est une catastrophe, là. On a commencé à en parler, mais tu sais, on a parti cette compagnie-là avec du love money. On a eu la chance de faire une première année qui était splendide, et tellement splendide que quand on a commencé à se dire, bon, ben là, ça va prendre plus d'avions, et pour ça, ça va prendre de l'argent, évidemment. Là, on a des banquiers qui commençaient à entendre parler de nous. On a eu quand même une très belle presse dans notre première année d'exploitation, notamment dû à notre branding, aux couleurs des avions, puis à la marque de commerce, à mon background de télé puis de radio, qui a fait en sorte que j'ai eu une couverture médiatique très forte aussi. Mais quand ça a été le temps de se dire faut grandir, même les banquiers qui sont arrivés autour de notre table pour dire, bon, ben là, ça a l'air sérieux, votre affaire, on va regarder vos chiffres. Ben, il y a personne qui croyait nos chiffres. Ils pensaient qu'on avait falsifié parce qu'ils disaient, c'est impossible, une compagnie aérienne en un an qui réussit à faire ce que vous mettez sur papier-là. Donc, il y a sûrement, vous avez fait de quoi de pas correct. T'sais, vous avez fraudé vos chiffres. Alors, il a fallu se battre vraiment pour démontrer qu'on avait une recette qui fonctionnait, qui était payante. Et là, oui, on a réussi à asseoir des banques à notre table et à obtenir du financement pour aller commencer notre croissance. Mais ça a été de courte durée, ça, parce que le problème, puis je veux pas dire en aviation, parce que c'est sûrement le même problème dans bien d'autres entreprises, mais moi, j'appelle ça le problème de l'œuf ou la poule, c'est que nous, là, pour être capable d'aller solliciter des clients puis les séduire, faut avoir une offre. Il faut être capable de leur dire, ben, on va vous servir avec quelque chose. Et quand tu vas à la banque et que tu dis, ben, j'ai besoin de 3 millions ou de 5 millions ou de 10 millions pour acheter un avion, la banque, sa première question, c'est, OK, parfait, c'est quoi ton contrat? Et là, tu fais, ben, écoute, je suis convaincu que si j'ai cet avion-là, je vais aller chercher tant d'heures de vol par année avec des clients comme ceux-là. Et là, tu peux les énumérer, mais t'en as pas de contrat. Parce que quand tu vas chez le client, tu dis, salut, moi, je veux te servir. Voici le prix que je te ferai puis comment je pense que je vais t'opérer. Le client dit, ah oui, parfait, il est où ton avion? Tu dis au client, j'ai pas d'avion, mais si tu me signes ton contrat, je vais en acheter un. Ça fonctionne pas. Je veux dire, il n'y a pas un client qui est prêt à s'engager, à te donner un contrat dans la vie si t'as pas un avion dans le cours. Alors, c'est vraiment l'œuf ou la poule, hein. Je veux dire, comment tu fais pour aller chercher le financement? Si t'as pas le contrat, puis comment tu fais pour avoir le contrat si t'as pas l'avion? Alors, puis comme je dis, c'est sûrement pareil dans bien des domaines, mais dans notre cas, la différence, c'est qu'à chaque fois qu'on veut ajouter un avion, on parle de plusieurs millions de dollars, puis ça devient très difficile d'aller convaincre une banque dans un domaine qui est déjà épeurant pour les banquiers, c'est-à-dire l'aviation. On peut pas convaincre une banque de passer outre leur façon de faire habituelle, traditionnelle, leur black book, de dire, ah ben c'est beau, on leur fait confiance, on va prêter 5 millions. Alors, ce qu'on a dû faire, puis ce qu'on fait encore, c'est que pour battre la banque, on a toujours eu nos fameux prêteurs privés, le love money initial qu'on a levé. On les a remboursés, puis on a dit, ah ben les gars, on les a tellement bien remboursés puis rapidement que les gars ont dit, ben là, ça marche, fait que si vous en avez encore besoin, les gars, vous nous le direz. Ben, à chaque année, c'est un peu ce qu'on fait. On leur dit, on relève de l'argent, on bat la banque. Ce que j'entends par battre la banque, c'est que on achète sans la banque un appareil, on fait un an en financement privé sur un avion, et là, on démontre clairement qu'on obtient les contrats pour cet avion-là, et quand l'avion roule, on peut aller à la banque et dire, regarde les chiffres, on a des contrats, on a les heures annuelles que ça prend, et l'avion est rentable, donc s'il vous plaît, financez-le. Et quand la banque le finance, ben là, on est souvent rendu au temps de dire à nos partenaires financiers, bon, ben les gars, on est prêt pour un autre avion, et on commence notre... On recommence notre processus.
Mais puis là, c'est là que ça devient fascinant. Ici, c'est dans un contexte comme ça, on s'entend, là, l'argent que vous allez lever est continuellement sous une certaine dette sophistiquée. Là, c'est pas de l'équité que vous allez donner en échange de financement, parce que ce qu'on en avait parlé brièvement ensemble, l'argent va servir pour aller financer un actif tangible qui par la suite a une valeur comparativement à des rondes de financement plus traditionnelles qui vont être investies sur du marketing ou sur de la vente. Donc, comment ça se déroule, là, ces dettes-là? Ça doit être assez complexe, votre département de finance à l'interne, là.
Ben, c'est complexe, puis ça l'est pas, dans le sens que tu as raison, si on allait en équité à chaque fois, ben on aurait plus de compagnie. On a tellement fait ça souvent qu'on aurait dû liquider presque toute notre équité. Alors la façon de le faire pour nous, puis c'est complexe, mais comme je dis, pas tant, parce que quand tu as un actif aussi sérieux qu'un avion, qui se compare parce que c'est un domaine particulier, mais ça se compare quand même de très près à l'immeuble. Parce que l'aviation, si on regardait, exemple, les coûts d'acquisition d'un avion neuf cette année versus ce que ça coûtait il y a 10 ans, c'est en constante augmentation, un peu comme si tu dis, ben, je construis 6 logements cette année versus combien il coûtait à construire il y a 10 ans. Alors, ce que ça fait, c'est que la courbe du neuf augmente assez fortement pour que la courbe de l'usager suive aussi une certaine augmentation. Alors, le risque financier pour un investisseur qui dit, bon, ben moi, je vais participer au financement d'un appareil, je vais donc avoir un lien sur cet appareil-là, il va m'appartenir jusqu'à temps qu'il me soit remboursé. Le risque est quand même très faible parce que cet avion-là va être assuré, va être exploité de façon commerciale avec... toutes les règles et ce que ça implique, c'est-à-dire que quand un avion vole, on a un montant par heure qui est mis pour les réserves moteurs, pour les pièces, pour l'entretien. Tout ça, c'est mis dans des comptes de banque à part. Alors, les morceaux, disons, qui perdent de la valeur sont compensés par de l'argent qui, elle, s'accumule dans un compte pour qu'on puisse remplacer ces pièces-là. Alors, il n'y a pas de dépréciation réelle sur les pièces et la dépréciation de l'appareil en tant que tel, quand il y en a, elle est faible et c'est facile de la battre avec l'intérêt puis le rendement qu'on va offrir sur un financement comme celui-là. Alors, c'est complexe parce qu'au final, on peut se retrouver avec plusieurs partenaires dans plusieurs compagnies de gestion différentes qui vont être propriétaires d'avions. Mais pour l'investisseur en tant que tel, c'est quand même une opération simple et probablement moins risquée que de dire j'investis en capital dans une compagnie qui va se servir de cet argent-là pour payer le CEO, pour engager une fille au RH, pour faire de la pub, pour faire du marketing, une mise en marché. Là, tu es assis dans ton siège en te disant faut que ça marche, j'ai mis mon argent là, faut que j'aille un rendement, mais t'en es pas certain. Alors que t'achètes un avion puis ça va pas, ben l'avion l'année prochaine on va le vendre, puis on risque de le vendre le prix qu'on l'a payé, ou en tout cas vraiment pas loin. Alors le risque est pas si élevé que ça, honnêtement.
C'est intéressant ça. Puis parlons-en un peu maintenant du volet de croissance, parce que là, on veut acheter des avions, mais après maintenant, on va aller trouver des clients. Et vous avez une croissance assez forte, là, je le disais en introduction, vous avez passé la barre des 50 millions de chiffre d'affaires annuels. Félicitations d'ailleurs. Et tranquillement, j'ai l'impression à travers les années, tu me corrigeras si je me trompe, Dani, il y a eu une certaine intégration qui s'est faite à l'intérieur de Chrono Aviation. Donc maintenant, on parle du groupe Chrono. Donc vous avez, et corrige-moi si je me trompe, les organisations WAS Avionique, Collège eFly, Québec Air Maintenance, Services Aériens Luxe. Je pense qu'il y a également beaucoup de services qui étaient faits auparavant à l'externe que vous avez internalisé. Peux-tu nous parler un petit peu de cette intégration verticale-là que vous avez faite avec l'entreprise?
Ouais, l'entreprise, elle a grandi sur deux volets parallèles et de façon simultanée. C'est-à-dire que la croissance de Chrono à la base était très forte et on a réussi, disons, à conquérir le marché parce qu'on avait une recette qui a su viser au bon moment. Tu sais, on dit souvent « timing is everything ». Fait que la croissance de Chrono, la compagnie aérienne, a toujours été forte et soutenue depuis sa création. Puis je suis pas gêné de l'admettre, c'est pas parce qu'on est des génies. Je pense que on est non seulement arrivé dans un bon timing, mais on est aussi arrivé face à des compagnies qui avaient énormément d'années d'existence et d'expertise et qui avaient donc développé leur recette et qui n'étaient pas prêts à changer cette recette-là au point de regarder Chrono aller en se disant « Ah, ça marchera pas, ils vont se casser la gueule. » Puis à trouver donc des excuses au succès de Chrono en n'y croyant pas et en ne changeant pas leur recette à eux. Donc, nos compétiteurs se sont accrochés à leur recette en se disant que Chrono allait pas marcher. Puis ça a pris 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis quand c'était... En fait, ils ont été très créatifs pour trouver des excuses au succès de Chrono, mais il y a jamais personne qui a pris le temps de s'asseoir puis de dire « Bon, ben, attends un peu, là, ils sont en train de prendre des parts de marché. Comment on va les freiner? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer ou pour changer ce que nous on fait pour aller se battre contre Chrono? » Alors, ça s'est pas vraiment passé, ça. On a eu... C'est comme si on avait eu le champ libre quand on a commencé. Puis encore aujourd'hui, dans notre façon d'innover puis d'opérer, on réussit à prendre des parts de marché. Donc, la croissance de Chrono, c'est une chose. Et la croissance d'intégration, c'est une autre chose qui a été mise de l'avant au départ avec le seul but d'augmenter la qualité du service de Chrono et non pas dans un but d'expansion. Alors, au final, oui, tu as raison que ça a créé une expansion d'entreprise, mais c'était vraiment pas notre objectif. Quand on a commencé à faire d'intégration, on a commencé à le faire parce qu'on s'est senti forcé de le faire.
Bien sûr.
Parce que les opérations aériennes étaient souvent menacées par de la sous-traitance qui livrait pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Puis c'est aussi basic que tu as parlé de WAS Avionics, c'est devenu WAS Aerospace aujourd'hui. WAS, on a parti ça quand on a acheté notre premier Pilatus en 2012. On a commencé à opérer, puis c'est un avion ultra récent, à la fine pointe de la technologie avec des cockpits digitales. C'est un avion de construction suisse qui est ultra solide. Ça casse jamais. C'est honnêtement, le nombre d'heures de maintenance nécessaire versus le nombre d'heures de vol, c'est au plus bas de l'industrie. Mais quand ça brise, c'est de l'avionique. Quand ça brise un Pilatus, c'est une lumière, c'est un fil, c'est un connecteur. C'est tellement high-tech qu'il n'y a rien de mécanique. C'est bien construit, mais quand ça brise, c'est du high-tech.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
Alors là, on se retrouve, puis back in the days, je te ramène vraiment avec ce qu'on vivait. On est mardi matin, on a 9 passagers de prêt à décoller dans l'avion. Les pilotes s'assoient dans l'avion, puis là, boum, il y a une petite lumière orange qui allume dans le cockpit. Shit, on pourra pas décoller, faut régler ça. Alors là, on sort de l'avion. Et on appelle la seule compagnie qu'on connaît qui est capable de réparer un Pilatus. Et le gars te dit, ben ouais, pas de problème, je vais être là vendredi matin. Et là, on est mardi matin.
Ouais, ben,
moi, l'avion, il peut pas voler. Ben, je fais quoi, là? Je dis à mes clients, ben excusez, on sera pas une heure en retard. Excusez, on se reparle la semaine prochaine. Ça marche pas. Quand tu nolises un avion privé, c'est parce que tu as une mission à accomplir, puis c'est pas pour dans 3 jours. Alors, là, on avait des problèmes de maintenance, donc, et on a décidé de partir une compagnie de maintenance pour s'auto-suffire, pour être capable d'avoir des gens qui allaient nous donner un meilleur rendement. Et quand on a bâti WAS, donc, c'était dans cet objectif-là, mais WAS, on est allé chercher les meilleurs dans la province et on a bâti une équipe. Et cette équipe-là s'est mise à offrir des services. Quand on s'est dit, on est assez bon pour servir Chrono, on va voir peut-être qu'on va servir d'autres compagnies. Et on est allé chercher d'autres compagnies autour. Et là, WAS a pris son envol et est devenu une entité viable d'elle-même qui fait des belles affaires avec plein de compagnies aériennes, même des compagnies qui sont compétiteurs à Chrono,
ben oui.
Compétitrices à Chrono. Ils peuvent être servis par WAS. C'est vraiment une entité qui est gérée à part. Il y a personne. C'est pas parce que c'est dans le groupe Chrono que Chrono va être privilégié. Là, on opère ça vraiment maintenant comme une entreprise indépendante. Et on a fait la même chose avec toutes les filiales qu'on a parties au fil du temps. T'as parlé de collège iFly. Quand on a parti le collège, on s'est pas dit, bon, on a du temps de libre, on va se partir une école, ça a l'air le fun. Honnêtement, on n'avait pas besoin de gérer ça plus que j'avais besoin d'un trou de balle dans la tête, là, de me dire, je vais me partir une école, là. C'était pas nécessaire. Mais il y avait un nuage noir qui commençait à planer au-dessus de l'industrie qui faisait dire à tout le monde, il y a une pénurie de pilotes qui s'en vient, on va grounder des avions tellement qu'il n'y aura pas de pilotes. Alors nous, on s'est dit, ben là, si on est pour manquer de pilotes, va falloir en former. Puis si on veut avoir des pilotes qui sont prêts à travailler, va falloir faire une école qui a la philosophie de pas juste entraîner un pilote pour lui donner une licence. Faudrait l'entraîner pour que le pilote soit quasiment prêt à agir dans un cockpit, dans un airline, avec ce qu'on appelle les SOP, les call and response. Puis, alors, on a parti l'école, on a acheté en fait une école la plus petite de la ville de Québec à l'époque, il y en avait 3. On a acheté une école qui comptait, je pense, une quinzaine d'élèves inscrits. Et on a parti iFly avec cette école-là, avec cette base-là. Puis un an plus tard, l'école avait 140 élèves inscrits. Puis on était devenu la plus grosse école à Québec. Mais évidemment, parce que les gens ont su que c'était lié à Chrono, que des pilotes chevronnés de Chrono donnaient de l'instruction, que c'était la porte d'entrée. Quand tu fais ton cours dans cette école-là, ben tu as plus de chances de rentrer chez Chrono, évidemment, parce que c'est une compagnie sœur, donc on pige nos futurs pilotes dans les bassins d'iFly avant d'aller ailleurs. Alors, iFly a décollé exactement comme ça. Et c'est la même chose avec Lux Ground Services. La compagnie de services au sol, Lux, au départ, ça a été directement de se dire, bon, ben là, on a un client qui nolise un avion, qui nous demande un départ à 7 heures le matin. Les pilotes sont là, l'avion est prêt, l'avion est bien entretenu. On a le contrôle de tout ça, ça se passe bien. On manque pas de personnel. Et là, quand le client arrive, on est presque prêt à embarquer dans l'avion pour décoller à l'heure. Puis on se fait dire par la compagnie qui nous vend de l'essence, « Hey, on arrive, les amis, ce sera pas long. On finit de tanker Sunwing. Puis Air Transat, qui est juste après Sunwing. Puis après ça, on s'en vient. » Puis encore là, je comprends ces compagnies-là parce que et on parle de clients à multimillions par année, là, Transat, Sunwing. Alors, ils veulent pas être en défaut sur ces contrats-là. Ce sont des clients plus importants que Chrono. Alors, le réflexe, c'est de servir ton client le plus important. Et Chrono se retrouve à, malheureusement, attendre 30 minutes après son essence. Ben, si ça arrive, ça, puis que toi, tu es mon client, Antoine, puis que je m'en viens de voir, puis je te dis, ben Antoine, je m'excuse, on va être une demi-heure en retard parce qu'on attend notre essence. Je veux pas être plate, mais en tant que client, t'en as rien à foutre de mes excuses de compagnie qui dit que j'ai pas d'essence. Et même si moi, j'ai pas de responsabilité dans ce qui se passe, au final, j'ai la responsabilité totale que je suis pas en train de partir à l'heure avec le client qui m'a engagé. Alors, pour encore une fois répondre au désir profond que Chrono soit on time puis qu'on ait un taux d'efficacité imbattable, bien, on s'est lancé dans les services au sol pour tout ce qui touchait l'aviation. Fait que là, j'ai parlé d'essence, mais le déglaçage avant les départs, ça fait souvent partie de ce qui fait qu'un avion peut être en retard. Chargement, déchargement des bagages, les manutentions finalement des appareils. Alors, tout ça maintenant est sous notre propre gouverne. Puis, on s'est donc, à quelque part, on s'est responsabilisé pour 100% de l'opération qu'on vend à un client. Alors, s'il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui, là, j'en ai pas d'autre excuse que moi-même. Hein? C'est où est-ce que j'ai planté, puis comment je fais pour pas me replanter à la même place, puis être meilleur la prochaine fois. Mais j'ai personne d'autre que moi à blâmer, et j'ai personne d'autre que moi à fouetter pour dire, OK, faut qu'ensemble, team, on se parle, et qu'on trouve une façon que ça se reproduise pas, puis qu'on soit meilleur. Alors, ça fait en sorte que l'efficacité de la compagnie, globalement, a pris un step en haut parce qu'on est difficile à battre aujourd'hui. Et parallèlement à ça, ben oui, l'expansion puis l'intégration verticale a fait en sorte que toutes ces compagnies-là qui servent Chrono se sont mis à servir d'autres compagnies aussi. Et on s'est retrouvé avec un groupe qui maintenant, en aviation, offre à peu près tous les services, contrôle tous les services, mais évidemment augmente son chiffre d'affaires parce qu'on est rendu partout. Tu sais, on est dans différentes branches, toujours reliées dans l'aviation, mais pas nécessairement tout le temps reliées au fait qu'on décolle un avion. Les ventes d'essence, tu sais, si j'augmente mon volume annuel de millions de litres, ben on va faire plus d'argent. Alors tout ça mis ensemble, ça fait que l'intégration assez bien faite.
C'est la beauté de l'intégration, c'est que tu contrôles, on va dire entre parenthèses ici, la chaîne d'approvisionnement de A à Z. On forme le pilote, on est capable de monétiser la formation du pilote, il travaille pour nous par la suite et ainsi de suite. Donc non, c'est fantastique, je suis un grand fan de cette approche-là, puis je trouve ça totalement formidable que ça a été fonctionnel pour vous. Et je continue d'en parler un petit peu de cette intégration-là. Donc bien entendu, on en parle, sur papier ça a l'air fantastique. Bien entendu, il y a certains enjeux, on a besoin sûrement de capital pour financer ces nouvelles organisations-là. Est-ce que ça ressemble un petit peu à une montagne russe tout ça, de se dire OK, c'est bon, on veut offrir un service de haute qualité à notre client, mais lancer une autre entreprise, avoir des nouveaux employés, bâtir une image de marque, ça prend des sous. Est-ce qu'on est toujours à la recherche de financement un petit peu dans cette industrie-là?
Écoute, j'ai l'impression, puis je sais pas si je faut que je dise ça, mais tu sais, je suis un gars transparent, puis c'est ça, fait que j'inventerai pas de bullshit, là. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, de tout le temps être en start-up. Puis pas juste à cause des compagnies qu'on a formées autour, mais juste parce que c'est l'éternel combat. En plus de rouler les compagnies, là, l'éternel combat, c'est, oui, de trouver de l'argent puis le financement. Et à chaque fois, je veux pas être plate, mais tu sais, ça existe plus se lancer en affaires en mettant pas d'argent ou presque pas d'argent, puis en se disant que c'est les banques qui vont mettre l'argent ou d'autres personnes qui vont mettre l'argent. Parce que si tu mets pas ton argent, comment tu fais pour démontrer clairement à tes investisseurs que tu y crois puis que tu es prêt à aller à la guerre pour gagner ton combat si tu n'es pas prêt, toi, à remettre ce que tu as gagné puis ce que tu as? Alors, moi, après 9 ans d'exploitation ou 8 ans d'exploitation, Vincent et moi, on aurait hypothéqué nos maisons. Puis moi, je fais des all-in à chaque année. Puis je fais pas des all-in de gars stupides qui se dit « j'ai pas peur de tout perdre parce que j'ai pas envie de tout perdre, mais j'ai pas le choix de faire des all-in parce que, un, je crois en mon entreprise, puis deux, ben j'ai besoin d'aller chercher des capitaux, puis j'ai besoin de convaincre des gens que ce que je fais, c'est sincère puis que j'y crois au point de mettre mes assets. Alors, moi, je suis tout le temps assis sur le bout de ma chaise, je suis tout le temps en train de me dire « oh my God, que je suis innocent de m'être relancé là-dedans ». Parce qu'il y a des journées comme tout le monde que je me dis pourquoi j'ai fait ça, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ça allait bien là, on était bien, pourquoi je me remets encore avec un fardeau sur les épaules puis du financement puis encore de la dette, puis fait que des fois il y a des journées ou des semaines qu'on regrette ces moves là en disant ça n'a pas de bon sens, puis il faut juste tenir bien fort puis avoir les couilles d'y aller.
Ben oui, ben
pis,
oui.
Puis c'est après que tu fais comme, oh, hey, as-tu pensé si on l'avait pas fait, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Puis quand les gens disaient, hey, c'est beau l'expansion, ben oui, mais c'est beau quand tu le regardes, c'est beau quand tu vas sur la scène chercher ton petit trophée de la banque, là, puis que tu es dans un magazine pour dire que tu as un beau taux de croissance, ça a tout le temps l'air bien beau. Mais la vérité, c'est que notre quotidien, il est pas si beau que ça, dans le sens que, tu sais, j'avais pas de cheveux gris avant, là, ça pop, puis on est stressé de par... Tu sais, moi, c'est pas l'opération aérienne qui stresse, Antoine. Ça, c'est devenu, tu sais, on est des aviateurs réellement. On n'est pas des... Vincent et moi, on n'est pas des comptables qui se sont lancés en aviation. On est réellement des aviateurs. On est des pilotes, on vole encore. Moi, le côté, on met des avions dans le ciel, il me stresse pas, pas en tout. Je suis plus nerveux de prendre mon auto aujourd'hui parce que c'est glacé que de savoir que j'ai 15 avions dans le ciel. C'est pas ça qui est stressant. Le nerf de la guerre, puis le combat ultime, c'est tout le temps de dire, OK, on est encore sur un fil de fer, on a les banques dans le derrière, on a des ratios qui sont serrés, il nous manque d'argent pour faire le projet qu'on veut faire. On refuse des contrats parce que j'ai pas l'avion, j'ai pas l'argent pour acheter l'avion. Puis là, je me dis, ah, je peux pas aller m'acheter un autre avion parce que là, mes ratios vont péter. Puis, tu sais, on est tout le temps là, nous, dans nos bureaux. Pourtant, on a une compagnie qui va bien, qui fait des beaux profits, qui a un chiffre d'affaires exceptionnel. Mais on dirait qu'on, des fois, tu sais, même moi, je me dis, ben, tu sais, on va s'arrêter où, là? C'est quand qu'on va se dire, hey, on a une belle compagnie, là, on peut-tu la laisser cruiser, là, un petit peu, puis, tu sais, faire de l'argent, puis être relax. Mais, c'est même pas du gain parce que Vincent et moi, on n'essaye pas de s'enrichir là-dedans. Les 5 premières années de cette compagnie-là, on n'a même pas pris de salaire. On avait encore nos emplois respectifs, puis on remettait tout ce qu'on faisait. C'est plus une drogue, je pense, de l'amener plus loin quand tu sais que tu peux y aller. C'est pas une drogue de dire, hey, on l'essaye dessus. C'est qu'à un moment donné, on est dans un marché où on a de la demande. On est tout le temps à se dire, mais ça n'a pas de bon sens, on pourrait faire 2000 heures de plus. Alors, quand on est convaincu à ce point-là, moi, je rentre chez nous, puis si je le fais pas, je file comme de la marde. Je me dis, ça n'a pas de bon sens que je laisse ça passer. Tu sais, j'ai encore faim pour y aller parce que je le sais que je peux le faire. Fait que c'est comme si tu me disais, ben oui, j'en ai assez, je suis content de ce qu'on fait, puis mais je suis pas capable de m'en aller chez nous en sachant que je suis pas là où je pourrais être finalement. Je peux l'amener encore plus loin. Et on a la conviction profonde qu'on va redoubler cette compagnie-là dans les 3 prochaines années. Juste parce qu'on connaît le marché, puis tu sais, ça va faire 10 ans. Là. On connaît notre business, on connaît nos clients, on connaît le potentiel que Chrono a. Alors, c'est bien difficile de s'asseoir et d'essayer de faire un step back. Moi, c'est pas moi, en fait. Je me rends compte que je pourrais jamais faire ça ou arrêter. Là, moi, je vais continuer. À moins qu'un jour, Chrono atteigne un statut où là, on se dit, bon, ben la croissance a vraiment freiné. On a atteint les parts de marché qu'on voulait dans à peu près toutes les branches qu'on exploite. Puis la compagnie est sur un beau tapis volant. C'est le fun. Tu sais, on est stable. Ben ça, oui, là, je pourrais peut-être m'asseoir puis apprendre à savourer ça. Mais on est loin de là. T'sais, à chaque année, il y a moyen de faire beaucoup plus. Fait qu'on veut y aller.
On devient accro à l'hypercroissance. C'est un petit peu ce qui se déroule ici. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que même si vous vous remettez dans ce jeu-là à chaque fois, d'aller acheter d'autres avions, l'entreprise, d'un autre côté, prend de la valeur aussi. Donc, c'est également ça qui est intéressant dans tout cet exercice-là. Vous avez plus d'actifs, vous allez chercher plus de clients. Donc, ultimement, ça va vous bénéficier. Et j'aimerais parler d'un autre point avec toi. Tu en as parlé beaucoup aujourd'hui de ton partenaire Vincent. Et je suis toujours curieux de savoir, avec les gens qui viennent sur le podcast, comment s'installe la dynamique entre deux actionnaires d'une entreprise? Est-ce que vous avez des tâches qui sont très distinctes l'un de l'autre? Ou des fois, vous vous pilez un peu sur les pieds?
Non, mais écoute, je sais pas pour d'autres, mais dans notre cas, je me souviens, hein, au jour 1, quand on a créé la compagnie, on s'était fait dire de ne pas faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de pas faire un 50-50, que ce genre de structure-là venait toujours à la chicane, puis c'était dangereux. Puis Vincent, on a fait 50-50 quand on a parti Chrono. Pour 2 raisons. La première, on était convaincus, un et l'autre, que la compagnie pouvait pas opérer sans l'autre personne. Donc, on était vraiment à part égale nécessaire au succès de l'entreprise. Et on se connaissait, Vincent et moi, depuis déjà 15 ou 20 ans quand on a parti ça. On est des chums de longue date. On a eu le temps de faire la fête, de chicaner, d'arrêter de se parler, de se reparler. Tous les petits bobos de notre relation d'amitié, on les a eus. Alors là, on est comme un vieux couple qui a décidé de vieillir ensemble, qui se part en affaires. Donc, on savait qu'on était à l'abri de chicanes d'ego ou de divergences d'opinions d'affaires. On a appris à se connaître assez depuis le temps. Avant même de partir chrono, on savait qu'on avait un profil qui allait être un mariage parfait d'affaires. Puis maintenant, quand on a parti l'entreprise, on n'a pas fait le travail de se dire qui va faire quoi. On aurait peut-être dû se faire des feuilles pour dire voici quelles sont tes forces, Vincent, voici quelles sont tes forces, Dany, comment on va se diviser le travail. Mais on l'a pas fait du tout. Au contraire, on est parti des fois la première année en se pilant un peu sur les pieds parce que on voulait tous en faire beaucoup. C'est-à-dire Vincent voulait en faire beaucoup, moi aussi. Et tranquillement, nos positions se sont profilées dans l'entreprise et Vincent était capable de mettre le doigt sur vraiment ce dont moi je pouvais être meilleur dans un domaine que lui, puis moi aussi, même chose pour Vincent. Fait que tranquillement, nos tâches se sont vraiment bien séparées, mais sans qu'on en parle jamais. On s'est jamais dit, bon, ben officiellement, Vincent, toi, tu vas être l'acquéreur des avions, puis Dany, tu vas être le gars du marketing. C'était comme naturel. Vincent avait, comme j'ai dit tantôt, une expertise exceptionnelle dans l'acquisition puis la vente d'appareils. Donc, ça me donne rien d'essayer de me mêler d'acheter des avions. Puis moi, pareil, j'avais 21 ans d'expérience en radio, puis en télé, puis en marketing. Puis alors, Vincent, il m'a pas dit, ouais, Dany, je voudrais que tu me présentes ton plan de marketing, s'il te plaît. On a une confiance aveugle. Moi, j'ai vu Vincent m'appeler des soirs où arriver souper chez nous comme bouteille de vin. Il disait, hey, t'as donc amené de belle bouteille. Soir, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai acheté un avion. Comment t'as acheté un avion? Puis, tu ne penses pas que je devrais être au courant? Non, non, ça va marcher, inquiète-toi pas. Puis moi, à l'inverse, dire à Vincent des fois, hey, Vincent, regarde ce que j'ai fait. Vincent ouvrait une revue. Alors, on a vraiment, tu sais, j'ai acheté un hangar à Montréal sans en parler à Vincent. Parce que tout ce qui est immeuble, développement de l'entreprise, le brand, ça, c'est moi. Vincent, c'est l'acquisition de clients, le développement des grands contrats, puis le parc d'aviation, les opérations aériennes. Vincent, c'est un pilote qui a beaucoup plus d'expérience que moi. 23 ans de service chez Air Canada, il a pas mal tout vu, là. Alors, mais ça s'est fait de façon naturelle, puis les gens aujourd'hui savent exactement où aller, dépendamment de leur sujet et leurs questions. Puis si Vincent est pas là, ben je suis capable d'en faire de ce que lui fait, mais je n'irai pas acheter un avion. Et si je suis pas là aujourd'hui pour donner l'entrevue, Vincent va la faire puis il va être super bon. Mais c'est ça, on s'est séparés de façon naturelle des tâches et non, on se pile pas sur les pieds. On a deux styles complètement différents de gestion auprès des employés. Vincent est très peu au bureau. Vincent travaille vraiment en arrière de cette compagnie-là. Vincent est dans le développement. Puis moi, ben je suis plus l'opérateur qui quotidiennement est assis dans le bureau à gérer la poutine quotidienne, si on peut dire. Puis ça fait l'affaire des deux. Vincent est bien dans cette vie-là. Moi, j'ai plus de fun à rentrer au bureau le matin qu'à être à la maison, même si j'avais un beau bureau à la maison. Ce que j'ai même pas en passant. J'ai éliminé le bureau de la maison parce que je voulais pas amener de travail à la maison. Mais donc, c'est un fit parfait.
Je comprends.
Je pense que c'est une grande partie de la force de Chrono depuis le début de cette aventure-là. On se le dit souvent, Vincent et moi, cette aventure-là, elle n'aurait jamais connu le succès qu'on connaît aujourd'hui si un ou l'autre des gagnants avait pas été là. C'est le team qui a fait qu'on était pratiquement imbattable dans ce qu'on a fait parce que ne serait-ce que de répartir la pression sur deux personnes des fois au lieu que ce soit juste une qui subisse tout à la maison. L'équipe a fait vraiment une grosse différence là, dans la création de ce qu'on a réussi à construire.
Ça ressemble à quoi un peu le futur de l'entreprise là pour les 2-3 prochaines années?
Ben, on a des gros défis de financement à régler parce que il y a un potentiel de développement énorme. J'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut facilement redoubler le chiffre d'affaires de l'entreprise en dedans de 3 ans. Et ça va vite parce que là, plus on grossit les appareils, tu sais, on a commencé avec des Pilatus PC-12, qu'on exploite encore, des avions de 9 passagers. Mais là, aujourd'hui, on est dans l'industrie du Boeing. Puis juste pour vous donner une idée, un Pilatus PC-12, quand on loue ça à l'heure, on loue ça à environ 1600, 1700 $ de l'heure. Un Boeing, ça vole à 10 000 $ de l'heure. Alors, quand un avion fait 1000 heures par année, un Pilatus va rapporter 1,6, 1,7, mais le Boeing va rapporter 10 millions de chiffre d'affaires. Alors là, on est dans l'acquisition de Boeing. On a annoncé hier l'ajout d'un 15e appareil, un autre Boeing 737, mais cette fois-ci entièrement dédié au cargo. Alors le cargo est un marché qu'on veut développer, qu'on a décidé d'attaquer parce qu'il y avait très peu de compagnies canadiennes d'impliquer dans les opérations cargo à 100%. Donc, Chrono, avec l'ajout de l'appareil en question, là, c'est un 737-800 nouvelle génération. On est la première compagnie canadienne à avoir fait modifier ce type d'appareil-là pour en faire un avion 100% cargo. Et le marché explose dans le transport de marchandises. Évidemment, c'est lié au commerce en ligne qui lui aussi explose. Et donc, ça, c'est un avenue qu'on va exploiter pour les trois prochaines années qui va sans doute nous aider à atteindre l'objectif que je dis de redoubler le chiffre d'affaires. Mais évidemment, on va réussir à faire ça si on réussit à lever le financement que ça prend, parce que on parle d'avions maintenant qui coûtent 10 millions pièces là, à mettre en service. Alors, si je veux en mettre 3 en service, j'ai besoin de 30 nouveaux millions de dollars. Alors, ouais. On sait, les banques sont là puis pas là. Hein? Fait que c'est le love money pour acheter un Pilatus à 2 millions en 2012 pour partir, c'était quelque chose. Mais lever 20 millions de love money, c'est plus difficile un peu là. Alors, c'est les défis qui s'en viennent. Mais assurément qu'on va mettre en place une façon de faire qui va nous permettre d'y arriver. Là. On a déjà un avion, on l'a fait pour un. Là. Alors on va, je parlais tantôt de l'œuf ou la poule, là, ben on va prendre le premier avion qu'on a réussi à acheter, on va le mettre en service, il entre en service début janvier là, 2022. On va prouver que cet avion-là va devenir extrêmement rentable rapidement parce qu'on a déjà des contrats dessus. Et quand on aura cette preuve-là, j'imagine rapidement qu'en dedans de 9 mois à 1 an, on sera capable d'aller chercher le financement pour ajouter le deuxième appareil, puis ainsi de suite. On peut facilement monter à 3 appareils cargo dans le marché. Donc, tu sais, vite comme ça, si vous faites des maths, puis je sais que ton auditoire en fait des maths qui sont bons, c'est un potentiel de 30 à 40 millions de revenus juste là, avec 3 nouveaux appareils en service, sans compter le reste du développement de l'entreprise. Fait que c'est pas juste des belles paroles ou des rêves d'un illuminé là, d'aller rechercher un 50 millions supplémentaires. Je pense que c'est ce qui va se dessiner dans le futur de Chrono d'ici, disons, 2025.
Wow. Puis parlons-en un petit peu des gens peut-être qui pourraient vous donner un coup de main. Donc, on a une audience au cours des 3 dernières années qu'on a bâti sur hypercroissance d'entrepreneurs. Vous êtes à la recherche peut-être de clients, d'investisseurs. Comment qu'on peut en apprendre plus là, sur Chrono?
Ben, écoute, oui, mais non, dans le sens que c'est tellement, tu sais, je disais tantôt, Vincent et moi, on a la chance d'être entouré de plusieurs gens d'affaires, puis surtout de servir beaucoup cette communauté-là. Tu sais, je parlais tantôt des gens qui sont assez aisés pour s'offrir des voyages en avion privé. On côtoie beaucoup de gens qui auraient les moyens financiers de financer ou d'aider Chrono, mais c'est tellement un marché particulier, l'aviation. On n'a pas croisé beaucoup de gens qui était prêt à prendre le risque de faire de l'aviation. Puis encore une fois, je le comprends parce que même si je disais tantôt que moi, en tant qu'aviateur, j'ai plus de stress à conduire mon auto avec la glace qu'on a dans les roues aujourd'hui que de mettre 15 avions dans le ciel, on est quand même très conscient que le même million investi dans la vie dans un bloc appartement ou dans de la brique, dans un immeuble, lui, il est sans risque. Cet argent-là, si tu as bien acheté ton immeuble, ben l'immeuble va prendre de la valeur, puis tu vas avoir un rendement qui est écrit d'avance sur papier. Là, tu vas viser ton 9-10%, puis la vie va bien. L'aviation, on peut faire les mêmes rendements, mais je suis obligé d'admettre que si il y avait une catastrophe demain matin, puis qu'on avait 130 morts dans un écrasement, assurément que la compagnie va prendre une claque d'en face, puis que tu sais, on est plus à risque finalement dans cette industrie-là que si j'étais en train de dire à Cominar, veux-tu m'aider à financer un nouveau centre d'achat que je construis à l'aéroport? Ce serait probablement beaucoup plus facile si on était dans une industrie plus classique que de l'aviation. Alors, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Ça s'adresse à les gens qui sont avec nous. Ce sont des passionnés à quelque part d'aviation. On a beaucoup d'investisseurs chez nous qui ont des avions personnels à eux, que ce soit un petit avion ou un hydravion, mais des gars qui sont pilotes, qui sont passionnés d'aviation puis qui trippent de pouvoir dire qu'ils font partie de ce succès-là, parce que autant je dis que c'est une business qui s'adresse pas à tout le monde, que c'est particulier de par son niveau de risque, faut admettre que c'est aussi une business qui est très sexy. C'est assurément plus sexy que juste dire j'ai un immeuble là. Quand tu viens montrer les avions aux enfants puis que tes chums savent que t'es dans... Il y a un sexiness qui est le fun, mais donc c'est quand même très difficile d'amener des gens qui sont des investisseurs, disons, dans d'autres sphères, de les amener vers l'aviation, c'est vraiment une lourde tâche. Puis on l'a appris, c'est-à-dire on a essayé, on a rencontré beaucoup de personnes au fil du temps, puis on s'est rendu compte que c'est vraiment les gens qui sont interpellés par ça viennent à nous souvent ou nous sont amenés par des contacts, puis on finit par avoir des deals avec des gens comme ça, mais on approche très peu ou très rarement des gens en essayant de convaincre du monde de quitter de l'investissement classique boursier pour venir faire de l'investissement chez Chrono. Notre meilleur pitch de vente, ça reste les chiffres qu'on fait puis le rendement qu'on réalise comme entreprise. Et quand nous on pitch à quelque part, ben on pitch aux banques. Même si c'est difficile, je disais tantôt, ça prend des contrats, mais on réussit. Je l'ai pas dit, mais je peux l'admettre. On réussit des tours de force en réussissant l'impossible depuis quelques années, en signant des contrats avant d'avoir les avions. C'est ce qui était jadis impossible. On réussit à le faire maintenant que la réputation de l'entreprise est là et qui est assez solide. Il y a des entreprises qui sont assez, je vais dire téméraires, mais ça
font confiance.
Un peu. Ouais, c'est ça, qui ont une confiance assez forte au groupe et au brand Chrono pour dire, ben regarde, oui, nous autres, ça va commencer en janvier. Puis c'est le cas avec l'avion cargo qu'on vient d'acheter. Là, la vérité, c'est que on a réussi à signer un contrat avec un grand donneur d'ouvrage dans le cargo avant même d'avoir l'avion. On était dans un contexte justement où le cargo augmente, il y avait une pénurie d'avions. Alors quand on s'est pointé avec le projet, il y a quelqu'un qui a dit ben oui, nous si vous le faites, on est prêt à y aller. Puis donc voici le letter of intention pour aller à la banque, comme de quoi on va être votre client. Donc là, on a réussi à faire ce qu'on pensait jamais réussir à faire dans la vie, c'est-à-dire vendre un contrat avant d'avoir l'avion. Puis je pense que c'est ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, plus que de trouver un ange investisseur qui va soudainement se mettre à vouloir investir dans l'aviation. Les chances de ça sont minces.
Je comprends très bien. Ben Danny, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. C'est une histoire totalement exceptionnelle, celle de Chrono Aviation, une industrie que je connais peu et que j'ai l'impression peut-être que peu de gens connaissent également, parce que il y a pas beaucoup de joueurs comme vous dans le marché et c'est toujours le premier nom qui me vient à l'esprit quand je pense à l'aviation. Donc, félicitations pour le travail que vous avez fait au cours des dernières années. Assez fantastique, exceptionnel, tout ça. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissant. Avoir des invités dans des industries autant différentes les unes que les autres me fait réaliser qu'on se doit, en tant qu'entrepreneur, de s'intéresser au maximum d'entreprises possibles. Des fois, entendre quelqu'un dans l'industrie aérienne implanter un certain concept nous fera voir de manière distincte comment on devrait gérer notre entreprise technologique. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Beaucoup de concepts présentés par Danny sont déjà en train d'être enclenchés pour mes entreprises. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.